S'agissant de la littérature médiévale, la question que nous nous posons cette année, quel est le nom du poète, est compliquée du fait que, en dehors des questions générales, théoriques, valables pour toutes les époques et relevant de la théorie littéraire, la question est compliquée du fait que ces poèmes lointains ne nous sont accessibles qu'à travers une transmission manuscrite sans laquelle ils auraient à jamais disparu, mais qui en même temps fait écran entre eux et nous. Pourquoi écran ? Que nous disent les manuscrits ? Que nous cachent-ils ? Que nous déforment-ils ? Il est impossible d'aborder cette littérature sans poser d'abord cette question. Et les meilleurs philologues, c'est-à-dire les philologues italiens, comme celui que nous entendrons tout à l'heure au séminaire, ne cessent d'attirer notre attention à nous, esprits légers et ignorants, sur ce point capital. Et c'est donc ce point que nous abordons aujourd'hui, non pas comme une parenthèse, mais comme des prolégomènes que j'aurais peut-être dû présenter plus tôt, mais que je présenterai d'abord de façon rapide, superficielle et simplement en rapport avec notre question et pour autant que cette question, ce problème des manuscrits peut intéresser notre problématique à nous. Jusqu'au XIVe siècle, à peu près, nous, on peut dire que nous ne possédons pas de manuscrits littéraires autographes en langue vulgaire. Et nous ne possédons même pas de manuscrits exactement contemporains des œuvres qu'il contient. La règle, c'est que, enfin, la règle, ce n'est pas une règle normative, c'est une constatation, c'est que plusieurs décennies au moins sépare toujours le manuscrit le plus ancien de la date de composition de l'œuvre quand nous pouvons la déterminer. Et comme, encore une fois, ces manuscrits sont notre seul accès à la littérature médiévale, la relation entre l'œuvre et le poète est à nos yeux brouillée par cet écart temporel. Cet écart temporel nous interdit de rapporter directement le texte que nous avons sous les yeux à celui qui l'a produit et nous contraint aux conjectures touchant la vie de ce texte, ses avatars, ses transformations entre le moment où il a été produit et celui où nous le saisissons, et même sur le moment où il a été produit et comme la réalité d'un tel moment. Comme toutes les questions qui ramènent aux origines, ces origines paraissent troubles, brouillées, on finit par se demander s'il y en a vraiment une. Or, cette question met en jeu l'idée que nous nous faisons du poète. Et elle met en jeu l'idée que nous nous faisons du poète à partir de l'idée que nous nous faisons de la transmission des œuvres littéraires au Moyen Âge. Et cette idée dépend elle-même, c'est comme un serpent qui se mord la queue, de la conception de l'activité poétique et de l'œuvre littéraire, une conception que nous prêtons au Moyen Âge. Nous avons déjà parlé tout au début, en posant de façon un peu schématique la question, nous avons parlé de la question de l'anonymat, à savoir si les œuvres sont anonymes systématiquement, si on peut dire, parce qu'on ne s'intéresse pas à la personne du poète, parce que le poète, par humilité, dans le cas de poètes monastiques, d'auteurs monastiques tient à rester anonyme, parce que cette poésie elle-même, vieille idée romantique, est une sorte d'émanation collective de tout un peuple et où il n'y a pas réellement d'auteur. Dès qu'on pose cette question de l'anonymat, entraîne des réponses possibles qui ne sont pas seulement des réponses factuelles, hein, tiens, nous ne connaissons pas le nom d'un tel, mais qui sont des réponses théoriques mettant en jeu l'idée même qu'on se fait de la poésie. Eh bien, cette incertitude est encore amplifiée, hein, comme par une caisse de résonance, par cette situation de la situation qui est celle de la transmission des textes par les manuscrits. Est-ce que ces manuscrits ne donnent pas de nom de poète ou hésitent sur le nom du poète ou en donnent plusieurs par négligence, par ignorance, parce que ça ne les intéresse pas, par volontairement, par dissimulation, etc. Est-ce que les variations dans le texte même que nous constatons sont le résultat de l'erreur, de la négligence, de remaniements volontaires, d'un mode de diffusion qui les imposerait, etc. Bon. J'ai déjà... les manuscrits nous offrent un témoignage factuel, irrécusable sur les textes. Ces textes, c'est ce que nous lisons dans les manuscrits et pas autre chose. Nous ne connaissons que cela, mais ce témoignage peut être interprété de mille façons. J'ai déjà eu l'occasion de faire allusion très rapidement, et nous y reviendrons de façon récurrente, mais sous des angles divers, de faire allusion à la querelle entre les héritiers de Joseph Bédier et ce qu'on appelle les néo-lacmaniens sur la méthode d'édition des textes médiévaux. Et j'ai dit qu'elle se déroulait, cette querelle, aujourd'hui à front renversé, pour ce qui est de l'idée que se font les uns et les autres de la relation entre l'auteur et l'œuvre, ou la relation de l'auteur à son œuvre. Et c'est ce point que je vais essayer d'éclairer à travers des considérations banales de seconde main. Moi, je ne suis pas un grand philologue ni un grand éditeur de textes. Et puis, nous sommes tous à l'école des Italiens. Et une fois de plus, je dois beaucoup à l'aide de Federico Saviotti, qui doit être là quelque part. Et je parle sous le contrôle de Luciano Rossi, qui est très savant et qui est un homme terrible. Donc, j'avance comme ça sur la pointe des pieds, les genoux en dedans et en tournant ma casquette entre mes doigts. Alors là, donc la philologie moderne est née avec la mise au point par Lachmann, L-A-C-H-M-A-2-N, d'une méthode pour l'édition des textes anciens qui s'est imposée. Et cette méthode vaut dans le cas où nous avons plusieurs, ce qui est fréquent, où nous avons plusieurs manuscrits d'un même texte ou beaucoup de manuscrits d'un même texte. Jusque-là, on éditait, donc au XVIIIe siècle, tout au début du XIXe siècle, on éditait les textes en prenant le manuscrit que vous tombait sous la main. Il était joli, il était bien écrit, il était lisible, on connaissait celui-là. On le copiait. Et Lachmann a mis au point une méthode pour classer les manuscrits. Et donc, à la fois pour guider l'éditeur dans le choix du ou des manuscrits qu'il utilise, et pour le guider dans les interventions qu'il doit faire quand il doit corriger ses manuscrits. Une copie sur une copie sur une copie finit toujours par se déformer, finit toujours par changer, finit toujours par introduire des erreurs ou quelquefois des modifications volontaires. Vous savez, le jeu auquel nous jouions enfants, l'un chuchote à l'oreille du voisin une phrase qui la chuchote à l'oreille du voisin et on voit quel est le résultat au bout de 10, eh bien, cela vaut pour la transmission manuscrite. Alors, la grande idée de Lachmann, c'est de classer les manuscrits par repérage des fautes communes. Avec l'idée que si il y a une faute qui est vraiment une aberration, un mot qui a sauté, une lettre, enfin quelque chose qui est vraiment une étourderie visible. Si on a la même faute dans deux manuscrits, on peut conjecturer qu'ils ont été copiés l'un sur l'autre ou qu'ils ont été copiés sur un modèle commun. Ce n'est pas absolument sûr. Deux personnes séparées peuvent faire la même étourderie. Mais enfin, dans un domaine où on n'a pas d'absolue certitude, si on a ça une fois, ça donne une idée. Si on a ça 10 fois dans le cours du texte, c'est certain. Et donc, on peut dire que ces deux manuscrits appartiennent à la même famille. Si on a un autre manuscrit du même texte qui ne contient aucune de ces erreurs, mais qui en contient d'autres, on peut considérer qu'il appartient à une autre famille. Comme il en contient d'autres, enfin, ou qu'il contient qui ne sont pas dans ce que nous avons, ce n'est pas non plus l'origine des deux autres, puisqu'il a des leçons, comme nous disons, totalement séparées. Donc on suppose qu'il y avait un manuscrit au-dessus, que nous n'avons pas, qui a donné d'une part le manuscrit qui est tout seul, d'autre part les deux qui ont les fautes communes. C'est le cas le plus simple. Et évidemment, ce système peut se diversifier à l'infini suivant le nombre des manuscrits. Mais toujours, et c'est ça le point qui pour nous est important, c'est qu'on aboutit à ce qu'on appelle un stemma, un schéma, qui remonte à un texte d'origine, qu'on appelle conventionnellement O, le texte d'origine. Bon. C'est important pour nous parce que à ce texte d'origine correspond un auteur d'origine. Donc, l'idée, la conception même d'Hermann correspond à une sorte de source unique soit un poète individuel, soit une sorte d'état premier du texte et d'état dans lequel le texte aurait été un texte unique qui ensuite se serait divisé. Donc, cette méthode qui marchait très bien, qui permettait des spéculations à la fois audacieuses et sûres, a été adoptée par l'ensemble de la philologie, au moment du grand essor de la philologie scientifique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Là-dessus est arrivé Joseph Bédier, qui, vous savez, était un homme extraordinairement brillant et l'un des rares parmi nous à avoir eu vraiment une sensibilité littéraire, mais aussi un homme ambitieux, on peut dire, c'est pas un reproche, justement ambitieux, et qui aimait à se faire une réputation en prenant le contre-pied des opinions admises, et particulièrement celles de son bon maître Gaston Paris. Et Joseph Bédier, qui n'est pas pour le reste vraiment un éditeur de textes, s'est attaché à l'édition d'un texte court mais magnifique et qui pose toutes sortes de questions, qui est le lait de l'ombre, le premier appelé le lait de l'ombre de Jean Renard, donc un poème des premières années du XIIIe siècle. Et en réfléchissant sur l'édition du Lait de l'ombre, il est arrivé à des conclusions qui rejetaient totalement la méthode de Lachmann. Je fais, si je commence les parenthèses, je n'en ai pas fini, mais le Lait de l'ombre est un poème très connu, et un poème, un si beau poème, que même si Bédier s'est trompé sur ses méthodes d'édition de texte, on va tous discuter, eh bien, le seul choix de ce poème, l'absou, montre sa grandeur. C'est un dialogue dans un jardin, près d'une fontaine ou d'un puits, il faut que l'eau soit étale, entre une dame et un chevalier qui lui fait la cour. Et le chevalier donc lui demande l'agréé pour chevalier servant d'accepter son amour en tout bien tout honneur naturellement, et il lui demande en gage de cet amour d'accepter un anneau. Et il est si charmant, si plaisant, si pressant, il fait si beau, le matin est si doux, le printemps, si, etc. La dame finit par accepter le don de l'anneau. Mais sitôt elle l'a accepté, qu'elle regrette, naturellement, qu'elle est effrayée de son audace. Et elle demande au chevalier de reprendre l'anneau. Que peut faire le chevalier ? S'il refuse de reprendre l'anneau, c'est une sorte de viol. Il la contraint à ce qu'elle ne veut pas. S'il reprend l'anneau, c'est un goujat. Et puis ça montre qu'il n'y tenait pas tellement. Vous ne voulez pas l'anneau ? Un anneau, ça sert toujours. Qu'aurions-nous fait à la place du chevalier ? Le chevalier dit à la dame, « Eh bien, madame, je suis votre serviteur, vos désirs sont des ordres pour moi, vous voulez que je reprenne cet anneau ? Je reprends cet anneau et je vais le donner à la femme au monde que j'aime le plus après vous. » Ah, comment ça, dit la dame, mais elle est déjà... Bon. Et voilà, et elle est loin d'ici non, elle est tout près, elle est à côté de nous. Ah, dit la dame, hein. Elle s'agite, ils sont à côté du puits, hein. Le chevalier se penche un peu, la dame l'imite, le reflet de la dame apparaît dans l'eau du puits et le chevalier laisse tomber l'anneau dans l'eau. Et alors, l'eau se ride un instant, le portrait se trouble, disparaît, puis l'eau se calme, on voit de nouveau le reflet de la dame dans l'eau, et le chevalier dit « Voyez, madame, elle l'a pris. » Et c'est la fin du poème. Bon. Donc, vous voyez que Joseph Bédier avait bon goût. Alors, ce charmant poème, il faut l'éditer. Chausser ses lunettes, comparer les mains, enfin bon. Bédier, en réfléchissant sur l'édition du Lait de l'ombre et sur les manuscrits du Lait de l'ombre, est arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose d'artificiel, en quelque sorte, dans la méthode de Lachmann, et qu'elle aboutissait à une sorte de résultat obligé, inévitable, et qui donc était suspect. On arrive, en remontant, en divisant en familles de manuscrits, on arrive toujours, nécessairement, à un schéma bifide. On ne peut pas arriver à autre chose. Il y a l'origine, puis après il y en a deux, puis après, etc. Or, il n'y a pas de raison théorique pour que ça se passe comme ça. Je simplifie la démonstration. Il n'y a pas de raison théorique. On pourrait très bien imaginer qu'à partir de O, le texte original, il y a eu en même temps plusieurs copies séparées, hein, et qu'à partir de O, on a une sorte de brochette, et puis à partir de là, des séparations. Or, ça ne se produit jamais. Si ça ne se produit jamais, c'est que le philologue ne retrouve pas la situation d'origine, mais que la méthode qu'il emploie le conduit à cette reconstitution qui est toujours la même. On ne peut donc pas se fier à la méthode de Lachmann et nous n'avons aucune certitude sur la diffraction, en somme, des manuscrits à partir de O. Nous sommes donc devant les textes, les manuscrits que nous avons, que nous pouvons lire, eux, ils existent, nous sommes sûrs de leur existence, et nous, puisqu'ils existent, nous savons qu'ils ont été lus, ou qu'on pouvait les lire. En dehors de cela, nous ne savons rien. Et à partir de là, Bédier propose une méthode radicalement différente, examiner très soigneusement tous les manuscrits, choisir celui qui paraît le meilleur. Alors, bon, a priori, un manuscrit ancien est préférable à un manuscrit plus récent, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'un manuscrit ancien peut être la copie d'un mauvais manuscrit, tandis qu'un manuscrit plus récent peut être une copie fidèle d'un manuscrit meilleur. Et puis, donc choisir avec science et avec subtilité un manuscrit qu'on juge être le meilleur. On le juge, il y a une part de subjectivité, mais enfin, quand on n'est pas plus grande que cette reconstitution artificielle que propose Lachmann, et une fois qu'on, et même s'il y a une part de subjectivité, ce manuscrit existe bien, encore une fois, donc si on l'édite, on édite un texte réel, et un texte qui a été vraiment lu, vraiment diffusé, qui pour des lecteurs a été l'œuvre en question. Et ce manuscrit, on le recopie et on l'édite en le changeant le moins possible, c'est-à-dire en y touchant uniquement quand il y a une faute manifeste, par exemple un mot oublié qui rend le vers faux, une lacune évidente, quelque chose qui n'a pas de sens, que sais-je. Bon, on le choisit comme ça. Bon. Et donc on l'édite tant qu'il n'y a pas d'erreur évidente. En France, pendant des décennies, la méthode de Bédier a triomphé. Et elle a triomphé très longtemps, plus longtemps même que dans d'autres pays, parce qu'elle a été soutenue par des disciples de Bédier, puis des disciples de Bédier. On n'est pas allé tellement au-delà de la première génération. Particulièrement savant et particulièrement brillant, et dont le modèle a été mon prédécesseur moral ici, Félix Lecoy. Je dis prédécesseur moral parce qu'il n'y a pas de continuité des chaires au Collège de France, et parce qu'à la retraite de Félix Lecoy en 1974, sa chaire est passée à Pierre Boulez, et que ma chaire a été recréée 20 ans plus tard sur les crédits de chaire laissés vacants, comme nous disons, par le départ d'Yves Bonnefoy. Donc, mais moralement, c'est cette continuité. Et donc, jusqu'au bout, j'y reviendrai dans un instant, Félix Lecoy a été fidèle à Bédier. Mais la méthode de Bédier a fini par être pratiquement abandonnée, victime peut-être de la supériorité philologique des savants italiens qui avaient toujours été réservés à son égard et généralement hostiles, victime peut-être aussi de la faiblesse philologique des Français, victime même de la formation, de l'organisation des études dans notre discipline en France, et ça ne s'améliore pas. Organisation des études qui fait qu'il n'y a pas de formation en philologie romane, qu'un étudiant en lettres ne fait que du français, pratiquement, et comme il n'y a presque plus de lettres classiques et que généralement, non seulement il ne sait plus le grec, mais cet étudiant sait très peu de latin, il fait de l'ancien français sans rien connaître autour. Voilà, donc il ne peut pas être un bon philologue. Tandis qu'en Italie, où existe encore le liceo classico, où il y a encore des élèves qui font des études classiques dans l'enseignement secondaire, et où existe un cursus, comme dans d'autres pays aussi, un cursus de philologie romane, où on fait vraiment du latin, et puis plusieurs langues romanes dans leur état ancien, évidemment, on forme de bons philologues. Enfin, bref. La situation étant cela, donc en France, nous, enfin, je ne parle pas ni pour mes petits camarades, ni pour mes élèves et tout, je parle pour moi. J'ai passé ma jeunesse à faire du latin et du grec, mais la philologie romane, je n'ai jamais rattrapé. Hein. Et la conséquence de cette fragilité philologique des Français, c'est que ils se sont raccrochés à la méthode de Bédier avec une rigidité excessive derrière laquelle on pouvait... une rigidité excessive qui se traduisait par une répugnance excessive à corriger le manuscrit, qui les faisait conserver le texte du manuscrit, mais presque jusqu'à l'absurde. Et derrière cette répugnance, on pouvait soupçonner... peut-être de la paresse, mais ce n'était pas de la paresse, mais une certaine ignorance, c'est beaucoup dire, mais une certaine fragilité qui leur faisait craindre de commettre des bévues en intervenant sur le texte. C'est ce que je dis, n'est peut-être pas très gentil, mais enfin, je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que ça se passait quand même, ça se passait parfois ainsi. Cependant, la méthode de Bédier n'a pas été totalement mise au rancard et n'a pas été mise au rancard par ceux-là même qui l'attaquaient. Et là, les philologues autour de nous, certains Anglais, certains Allemands, enfin de la génération précédente, les Belges, les Suisses et les Italiens, naturellement, ont toujours appliqué à ces questions une réflexion très attentive, très savante, très nuancée. Et en Italie, du vivant même de Bédier, 5 ans avant la mort Bédier, Giorgio Pasquali a publié un traité sur la storia della tradizione e critica del testo en 1934, qui est lacmanienne en ce sens qu'elle valorise la recensio, la construction d'un stemma, mais qui n'en fait pas un instrument automatique entre les mains de l'éditeur. On fait le stemma et donc on doit le prendre tel manuscrit et le corriger par tel autre, mais il est nécessaire d'établir un stemma comme pour avoir une description historique de la tradition du texte. Et c'est une sorte de préalable, de préparation, de propédeutique à l'établissement critique. Et l'établissement du texte peut ensuite se faire selon des critères variés qui varient selon les situations. D'abord, il y a le cas où il y a un manuscrit unique, alors à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de cela. Et puis, il y a toutes sortes de possibilités. Il peut y avoir une situation où il y a vraiment un manuscrit qui s'impose. Il peut y avoir une diffusion qui a été telle que il y a une situation à part dans un cas et puis autre chose. Tout peut se produire. Et en même temps, il introduit ou il impose dans la théorie de l'édition des textes et en même temps dans leur pratique, des concepts fondamentaux qui étaient déjà en usage, mais qui n'avaient pas été aussi bien formalisé, par exemple, l'idée de lectiones recentiores non deteriores. Les leçons, c'est ce que je disais il y a un instant, plus récentes, mais pas moins bonnes. Le cas d'un manuscrit plus récent, mais qui a conservé de meilleures leçons. Par exemple, l'attention aux usages propres à chaque scribe, à ses habitudes et à leur effet sur le texte. Par exemple, l'idée fondamentale de lectio difficilior. Vous avez un manuscrit qui donne une leçon limpide et qui donne un sens qui s'impose. Et un autre qui donne, ou un mot plus compliqué, ou une leçon plus difficile, la consonance plus compliquée, on voit moins bien ce que ça veut dire. A priori, on peut considérer que la bonne leçon est la leçon la plus difficile. Parce qu'on conçoit aisément qu'un scribe, face à un texte qu'il a du mal à comprendre, le corrige pour donner un texte plus facile, la voie de la facilité. On comprend plus difficilement que face à un texte limpide, le Christ, le scribe... que le Seigneur me pardonne, le scribe réintroduise introduise une difficulté. La raison était d'introduire une difficulté. Alors, évidemment, il peut, un mot facile peut avoir été difficile à lire dans le modèle et le scribe peut être allé chercher la difficulté. Enfin, rien n'est jamais absolu. Mais, en gros... ce principe est sain. Mais considérer que l'édition d'un texte exige une description historique de sa tradition, que l'édition d'un texte exige de suivre et de reconstituer son histoire, c'est ce que je disais en commençant, c'est une façon de poser implicitement la question auctoriale. Qui se cache derrière le texte? Est-ce qu'on peut, si j'ose m'exprimer ainsi, est-ce qu'on peut mettre une tête derrière les mains successives qui ont copié le texte? Alors, l'école italienne n'a cessé d'approfondir ces questions avec une certaine conscience d'elle-même et de sa supériorité, qui peut quelquefois être un peu agaçante pour les voisins, mais enfin, la supériorité est tout de même réelle. Et elle approfondit ces questions en prêtant attention à l'histoire et à la géographie aussi de la tradition, à ses implications pour la constitution du texte, manifestant sa méfiance à l'égard d'une évaluation superficielle de la qualité des manuscrits. On est tenté de faire confiance à un manuscrit soigné, un manuscrit qui est copié avec soin, où il y a peu d'étourderie. Alors on se dit, voilà, quelqu'un de consciencieux, on peut lui faire confiance. Oui, mais encore une fois, le modèle peut être mauvais. Oui, mais on peut avoir un scribe à l'esprit banal, en quelque sorte, qui choisit justement la lectio facilior. On peut avoir une sorte de scribe bourrin qui, dès que ça devient subtil, comprend plus très bien, etc. C'est pour ça qu'il a une belle écriture. Enfin, tout est possible. Et puis, prendre en considération aussi la possibilité de variantes d'auteur. Parce que on dit « l'original », oui, mais même si on suppose le poète à la source, le poète a pu faire plusieurs copies. a pu diriger plusieurs copies, puisque à partir du moment où nous saisissons le poète au travail, Guillaume de Machaut, Jean Froissart, on les voit faisant faire plusieurs copies de leur œuvre et capables d'intervenir. Donc ça pouvait se faire avant, n'est-ce pas ? Et puis, attention aussi aux... alors, ça, c'est quelque chose à quoi tout le monde, en principe, prête attention, à ce qui relève de la langue de l'auteur et ce qui relève de la langue du copiste. Le dialecte du texte que nous lisons n'est pas forcément le dialecte de l'auteur. Et alors, il y a des indices qui permettent de le voir, des rimes, par exemple, qui marchent dans un cas, pas dans l'autre, etc. Bon, des choses comme ça. Et donc, nos voisins et les philologues les plus savants et les plus attentifs prennent en compte tous ces éléments. Et ce souci de prendre en compte sans dogmatisme tous les éléments de la tradition textuelle a même conduit certains philologues vraiment lacmaniens à récupérer partiellement et avec subtilité les principes de Joseph Bédier. D'autant plus que, en tête aussi les Italiens, les Italiens travaillent particulièrement sur les troubadours. Nous avons souvent eu l'occasion de le voir, donc sur les troubadours d'Occitan. Et dans le cas des troubadours, l'attention à un manuscrit particulier est particulièrement importante et souvent particulièrement fructueuse parce que ces manuscrits sont souvent la compilation d'un commanditaire ou d'un copiste particulier, reflètent des goûts. On voit des familles de manuscrits où l'ordre des poètes, l'ordre des poèmes reste le même. Et puis, tiens, il y en a un qui n'a pas exactement les mêmes choix que les autres. Donc celui-là est intéressant en tant que tel. Et ça vaut la peine de s'intéresser à ce manuscrit tout particulièrement. Le manuscrit H des Troubadours, le manuscrit R qui reflète peut-être le choix personnel du comte de Rodez, etc. On a vu et alors certains philologues italiens ont appliqué à la fois ces méthodes et leur application nuancée avec virtuosité. D'Arco Silvio Avalle, à l'époque même la plus néo-lacmanienne, mais Alberto Varvaro, Roberto Antonelli et les jeunes, la récente édition de Folket Marseille de Paolo Squillacciotti et notre orateur dans une heure. Et pourquoi ce débat d'érudits sur lequel je m'étends trop longuement intéresse-t-il encore une fois la question qui est la nôtre? Quel est le nom du poète? Parce que le choix entre la tentative de reconstruction, de reconstitution du texte original, le choix Lachmann, et la reproduction scrupuleuse d'un texte effectivement reçu, le choix Bédier, implique des conceptions différentes de la relation entre le texte et son auteur. La démarche lacmanienne suppose, dans son principe, que le poète, qu'on puisse lui donner un nom ou qu'il reste accidentellement anonyme, que le poète existe vraiment, si je puis dire. Idéalement, on devrait pouvoir retrouver le texte tel qu'il est sorti de sa plume ou tel qu'il l'a dicté avant qu'il soit déformé par les fautes liées à sa transmission. La théorie de Bédier est qu'on ne peut pas retrouver ce texte original. On ne le peut pas pour des raisons pratiques. La reconstitution d'un stemma à partir des fautes communes est illusoire, celle d'un texte original à partir des leçons des divers manuscrits est fragile et subjective. Et dans ces conditions, plutôt que d'inventer sur des bases incertaines un texte artificiel, mieux vaut reproduire le texte d'un manuscrit, texte qui a au moins la qualité d'exister, d'avoir réellement été lu. Cela, c'est la position de Bédier lui-même. Mais, dans son esprit, et pour autant que je comprenne sa démarche, être fidèle au manuscrit choisi, à condition que le choix soit mûrement pesé et que ce soit un bon choix. Être fidèle au manuscrit choisi revient à être fidèle au poète. Et finalement, plus fidèle au poète que dans l'effort lacmanien de reconstitution de son texte original. Parce que le choix de la Lectio Difficilior, principe qui devait intervenir dans le choix du manuscrit retenu et qui guidait nécessairement l'éditeur dans son effort pour le corriger le moins possible. Dans l'hypothèse de Bédier, la Lectio Difficilior joue un rôle particulièrement important parce que ne pas toucher le moins possible au manuscrit, cela veut dire garder des leçons qui sont difficiles à comprendre ou difficiles à admettre, et les garder quand même, c'est-à-dire pousser le plus loin possible le principe de la Lectio Difficilior, faire le pari de la Lectio Difficilior. Eh bien, ce choix de la Lectio Difficilior donnait une assurance de retrouver la main du poète. Non. Puisque la Lectio Difficilior, ce n'est pas un choix de scribe, c'est une trouvaille de poète. Non. Et c'est pour ça qu'on considère qu'elle est meilleure. Donc ça donnait une assurance de retrouver la main d'un poète dans lequel Bédier voyait un créateur nécessairement supérieur au scribe ou au remanieur qui avait ensuite altéré son texte dans le sens de la facilité. C'est supposer qu'il y a à l'origine un poète qui est supérieur à ceux qui ont ensuite touché au texte. Le choix de la Lectio Difficilior contre la Lectio Facilior n'est pas pour Bédier un choix esthétiquement neutre, fondé sur la constatation du comportement habituel des scribes ou sur la constatation du comportement de n'importe qui face à une difficulté de lecture. C'est un acte de foi dans le génie du poète. Et on le voit bien d'une façon légèrement transposée et en débordant du cadre strict de l'ecdotique, de l'établissement du texte, on le voit bien aux arguments qu'il utilise dans le grand débat sur la chanson de Roland. Là, j'anticipe un petit peu parce que nous en reparlerons à propos de Turold, naturellement, et bientôt, la prochaine fois. Et donc, Bédier veut justifier ce qu'il appelle la précédence du manuscrit d'Oxford, le manuscrit Digby 23, qui livre la version la plus ancienne que nous connaissons de la chanson de Roland. Quand nous disons la chanson de Roland, sans autre précision, c'est ce manuscrit. La précédence du manuscrit d'Oxford contre le manuscrit dit V4, manuscrit de Venise, qui donne une version plus récente, allongée, remaniée, mais qui présente un grand intérêt en elle-même. Et pourquoi la précédence de haut? C'est que pour Bédier, le laconisme de la version d'Oxford, beaucoup plus courte que les autres, ses apparences incohérences ou ses apologies, les apparentes entorses à la logique des comportements prêtés aux personnages. Tout cela peut se comprendre, tout cela peut s'expliquer, tout cela peut se résoudre au prix d'une fine explication littéraire à laquelle se livre Bédier, ou se livre avec un brio extraordinaire. Et pour la plus grande gloire de cet auteur génial, subtil, profond, dont la finesse n'a pas été comprise par le lourd remanieur de V4. Et pour Bédier, la logique épaisse de V4 est tout entière une lectio facilior, appliquée non pas à un détail du texte, mais à l'enchaînement des événements de la leçon de la chanson de Roland. Et Ramón Menéndez Pidal était bien entendu de l'avis opposé et refusait de privilégier a priori un état du texte. Nous reviendrons encore une fois sur cette querelle. Sur ce point, le disciple le plus fidèle, le plus savant et le plus pénétrant de Bédier a été Félix Lecoy. Et ces admirables éditions critiques sont fidèles à la leçon de son maître, mais en ce sens que Lecoy déploie une science philologique immense et une subtilité prodigieuse dans l'interprétation pour justifier des leçons du manuscrit qu'un moins savant que lui balayerait comme des fautes évidentes. Lecoy était un virtuose de la lectio difficilior et il parvenait à sauver le manuscrit et même à en augmenter l'autorité au moment même où on croyait le prendre en défaut. Malheureusement, Félix Lecoy était toujours très économe de ses notes et il n'a généralement pas pris la peine d'expliquer pourquoi il gardait telle leçon que d'autres considéraient comme fautive. Il n'a même jamais expliqué. De sorte que son raisonnement, qui était presque toujours imparable, est trop souvent perdu. Et c'est particulièrement vrai, particulièrement dommage pour son édition du Tristan de Thomas, qui est une de ses dernières éditions et qui a été critiquée. Quand il préparait cette édition de Thomas, j'étais encore petit à l'époque, je n'étais pas au professeur au Collège de France, mais de temps en temps, j'allais rendre visite à mon vieux maître dans son bureau, sur l'emplacement où est le mien maintenant. Mais enfin, à l'époque, c'était moins beau, ça n'avait pas été refait. Et il était là, dans ce grand bureau absolument vide, et juste sur une table, la copie ou les photos du manuscrit sur lequel il travaillait. Ça, bon. Et alors, il éditait le Tristan de Thomas. Et il me lisait un vers ou deux et il me disait « qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors je lui disais « c'est pas possible, ça va pas, pour telle ou telle raison, ça n'a pas de sens. » Alors il ricanait et il m'expliquait que non seulement ça allait très bien, mais que ce que je proposais, qui était pour le coup une lection facilior, était impossible pour une raison. Une fois qu'il l'avait dit, ça crevait les yeux. Bon. Naturellement, je ne prenais pas de notes. Je n'étais pas le Famulus Wagner, je ne disais pas à maître permanent. Ah bon. De sorte que j'ai tout oublié. Et si je n'avais pas oublié, je pourrais défendre la mémoire de Lecoy en publiant un article et en disant, et là, il avait raison pour telle raison. Je ne me pardonne pas d'avoir oublié l'école qu'il me posait sur le texte lorsque je lui rendais visite et donc les solutions toujours convaincante qu'il leur apportait. Et je ne devrais pas dire ça. Tout ce que j'en ai fait, c'est que dans un petit roman, je l'ai mis en scène face à un disciple qui est un médiéviste idiot, venant de province, je lui rends visite, c'est moi, naturellement, et alors placé dans la bouche du médiéviste qui raconte pas avec une satisfaction stupide. J'ai raconté comment le disciple se rend ridicule, mais c'était l'ensemble de la scène, et sur le détail du texte, c'est perdu. Bon. Alors là, Lecoy appliquait vraiment la méthode de Bédier. Et d'ailleurs, il se reportait à l'édition que Bédier a donnée de Thomas. Et il disait, là, on a dit qu'il avait tort, mais il avait raison. Parce que... Et il avait raison, lui le quoi. Il appliquait vraiment la méthode de Bédier, mais il s'en expliquait si peu que plus personne ne voit combien il l'appliquait intelligemment et savamment. Mais en France, et de son, au moment même où il faisait cela, où il était tout seul à la retraite depuis 20 ans dans son bureau du Collège de France, comme la vieille fileuse oubliée de la Belle au bois dormant, hein, autour de lui, les choses se faisaient différemment et la méthode de Bédier était toujours appliquée en France. On se réclamait de Bédier et de Lecoy, mais elle était prolongée et aménagée en cette deuxième moitié du XXe siècle en fonction de l'idéologie critique du temps. Et on a considéré à ce moment-là, non pas qu'il y avait une impossibilité pratique à retrouver le texte tel que l'a produit le poète, mais que ce texte n'existe pas et que seules existent les variations sur le texte produites par sa transmission. Et cette idéologie textuelle, si l'on peut dire, que là encore je résume trop schématiquement, a été illustrée brillamment en France par Éloge de la variante de Bernard Cerchiglini, qui a eu un retentissement, pas seulement en France, un retentissement mondial. Et c'est c'était une conception qui, non seulement était séduisante et brillante, mais qui était flatteuse pour nous, et qui était dans l'air du temps, puisqu'elle entrait en résonance avec le triomphe de la critique génétique dans l'ordre de la critique et de l'édition des textes modernes. Donc, il s'est constitué un paysage textuel cohérent. Et ce qui était considéré comme la méthode de Bédier y a trouvé sa place. Et ainsi, Joseph Bédier, chantre du génie individuel du poète, père de l'individualisme, comme on dit dans la théorie de la naissance des chansons de gestes, attaché à défendre, à dire que Turold est bien l'auteur de la chanson de Roland et que Turold est génial et qu'il y a Turold et Turold seul, nous le verrons à propos des chansons de gestes, Bédier est devenu le saint protecteur de ceux qui entendaient faire disparaître le poète. Vous voyez, dans le domaine de la critique moderne, les plus avancés, enfin, si c'est une avancée, n'est-ce pas, comme dit l'autre, nous sommes au bord du gouffre, faisons un pas en avant, c'est de la critique génétique, style Jean-Louis le Brave, du côté germanique, qui considère que l'auteur a si peu d'importance qu'il n'y a pas de raison d'attacher une valeur particulière à la version qu'il a choisie pour être imprimée, et que tous les brouillons ont la même valeur. On récuse, en somme, l'autorité de l'auteur. Donc là, il s'est passé, enfin, pour justifier le choix d'un manuscrit, on a recouru à des arguments proches de ceux de la critique génétique qui dilue le poète dans ses variantes après avoir accordé une attention dévote à ses brouillons. Hein, et, encore une fois, ces dévots les plus extrêmes considèrent que le texte autorisé et publié par l'auteur ne doit pas bénéficier d'un statut privilégié au regard des brouillons qui ont été récupérés dans sa corbeille à papier. À l'inverse, Karl Lachmann, qui était nourri de la pensée romantique d'une poésie émergeant obscurément des profondeurs d'un peuple entier, Karl Hartmann qui a accrédité l'idée que l'Iliade est constituée de poèmes séparés et qui, s'agissant du Moyen-Âge, a appliqué la même méthode et la même hypothèse au Nibelungenlied. Karl Hartmann est devenu, lui, le saint patron de ceux qui sacralisent le texte authentique et, en particulier, justement, de la grande génération des philologues italiens formés à l'école de Benedetto Croce, Gianfranco Contini, Darco Silvio Vavale, Cesare Segre, etc. Et il faut dire qu'il est à plus juste titre que Bédier ne l'est devenu du n'importe quoi éditorial, si je puis dire, parce qu'il était tout de même bien à la recherche de l'authenticité textuelle, lui qui cherchait à distinguer dans le Nibelungenlied des parties authentiques et des parties adventives. Et c'est pourquoi je parlais, en commençant, d'une bataille à front renversé. Et comme l'ont bien vu, je le disais plus haut, les philologues italiens les plus pénétrants, ce n'est pas le bédiérisme qu'il faut opposer au néo-lacmanisme, c'est le néo-bédiérisme qu'il faut opposer au lacmanisme. Dans l'hypothèse lacmanienne, le nom du poète cache un poète. Dans l'hypothèse néo-bédiériste, le nom du poète cache le pur fonctionnement du texte. Et comme l'écrit Fabio Zinelli, qui, Dieu merci, a une direction d'études à l'École pratique des hautes études, je dis Dieu merci parce que comme ça, un solide enseignement de philologie de l'Ancien Occitan existe encore en France, la question du statut de l'auteur est, en fin de compte, une clé importante pour comprendre pourquoi la méthode lacmanienne a remporté un tel succès en Italie. Il écrit cela à propos de la philologie italienne. Mais nous allons rester en Italie, puisque après 5 minutes de prose, nous allons écouter Luciano Rossi. Je vous remercie.